En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Nous reprenons aujourd'hui les entretiens qui ont eu lieu à l'Académie nationale de médecine le 14 septembre 2012 sur De la mort à la vie. J'avais beaucoup insisté pour qu'on parle de Gerhard Richter. C'est un grand peintre allemand, pas très connu en France parce qu'il exposait à l'ouverture de Beaubourg, mais depuis on l'a peu vu. Et vous verrez que Camille Morino, qui a organisé l'exposition, connaît parfaitement son travail. Et vous verrez comment elle a su amadouer Gerhard Richter pour qu'il accepte de venir et pour qu'il accepte sa présentation à elle. Vous verrez comment Gerhard Richter a vu, comme un Allemand, la mort, c'est-à-dire la mort d'un de ses parents tué sur le front russe, c'est-à-dire aussi la mort de révolutionnaires, et c'est aussi la fin de septembre où un bâtiment de New York a été enflammé. Camille Morino, qui est conservatrice au Musée d'Art Moderne, Georges Pompidou, qui se définit d'abord par une exceptionnelle timidité. Elle ne dit jamais ce qu'elle fait, elle ne dit jamais. C'est une maladie. Elle a une maladie de ne pas donner ses talents. Alors, je ne vous dirai pas tous ses titres, elle m'a défendu de le dire. Bon, je vous donne simplement sa fonction et son titre. Elle est conservatrice, donc, au Musée Georges Pompidou, et elle va nous parler de l'exposition qu'elle a organisée, toute seule, alors que Gerhard Richter n'avait été montré à Paris, je crois, qu'au centre Pompidou du temps de Pontus Sultan. Alors, allez-y, et comme nous restons fidèles à notre thème, avant Bossuet, vous allez nous parler de la mort chez Gerhard Richter, et vous allez voir que on voit pas la mort de l'Allemagne, qu'elle soit de l'Est ou de l'Ouest, puisque j'ai parti des deux, comme nous. C'est ce qui est fascinant. Picasso, il ne voyait que sa mort à lui, mais Picasso, c'était le génie, alors c'est sa gueule qui intéresse. Vous voyez. Nous, on n'est rien. Donc expliquez-nous ce que vous avez fait dans cette exposition. Alors dépêchez-vous, elle ferme bientôt l'exposition.
Le 24.
Le 24. Vous avez 10 jours pour voir l'exposition. Si vous n'y allez pas, vous êtes des gourdes. Parce que l'exposition est parfaitement faite, et moi qui connaissais... Franchement, comme beaucoup de petits Français, je ne connaissais pas bien Richter. Franchement, je peux vous dire, j'ai vu des petites choses, je ne comprenais rien. Je ne comprenais pas d'un côté la lumière, de l'autre côté les photos peintes, de l'autre côté la superbe abstraction, le tableau, le grand panneau abstrait. Il bat tous nos petits franchouillards abstraits. Non, il est bon. Tout ça, je ne connaissais pas. Alors allez-y, parce que c'est vraiment une découverte. Il a plus 20 ans, mais je crois que la dernière salle dit « je continue encore », non ? Comment ça s'appelle ? C'est mieux que ça, il l'a dit mieux que moi.
Oui.
Bon, allez-y, allez-y, et merci d'être venu.
Écoutez, c'est un peu difficile de passer après...
Oui, c'est difficile à cause de... parce que, évidemment, voilà. Pierre Schneider, on ne peut rien dire.
Voilà.
Mais c'est l'histoire, vous avez 20 ans, alors merde, hein. Allez-y, vous représentez une tout à fait, une toute autre génération. Vous pourriez être sa petite fille, bon... Alors c'est tout à fait une autre génération.
Donc c'est une exposition qui a ouvert en juin et Gerhard Richter est un monsieur qui vient de fêter ses 80 ans, qui est très en forme et qui d'ailleurs se compare lui-même, il est très modeste, mais de temps en temps il se compare à Picasso. Et moi je dois dire que c'est effectivement, de mon regard d'historienne d'art, probablement le peintre le plus proche dans sa manière de travailler, dans sa reconnaissance aujourd'hui par le public, par le musée, aussi par le marché, probablement le plus proche de Picasso. Donc c'est un artiste tout à fait étonnant, déjà par sa vie, puisqu'il naît en Allemagne de l'Est, et il va émigrer en 61 en Allemagne de l'Ouest, après une formation assez classique en Allemagne de l'Est de peintre, qu'il va complètement laisser tomber en passant à l'Ouest, et laisser tomber tout à fait littéralement puisqu'il détruit toute sa production antérieure. En arrivant à l'Ouest, au début des années 60, il se lance dans une série de tableaux qui est très caractéristique de son travail, dont vous avez ici deux exemples à l'écran, qu'on appelle les photopeintures. Comme vous le voyez, ce sont des tableaux qui sont réalisés à partir de photographies, des photographies qu'il agrandit et qu'il projette sur le mur et qu'il peint ensuite de manière assez précise, assez réaliste, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, il va flouter l'image, il va partiellement effacer l'image, soulignant ainsi justement la présence de la photographie mais aussi la présence de la peinture. Donc ce que je vous dis là, c'est rapidement expliqué, parce que évidemment je vous engage à aller voir l'exposition. C'est toujours très difficile de regarder la peinture sur des reproductions comme ça, par le biais de l'écran de l'ordinateur. C'est vraiment un grand peintre aujourd'hui, reconnu comme tel, et dont on a la chance d'avoir ici donc presque 150 toiles rassemblées du monde entier dans un bel espace au sixième étage du Centre Pompidou. Donc on m'a fait une commande de Gerhard Richter et la mort, et c'est une belle commande, parce que la mort est présente dans son travail, alors pas pour les mêmes raisons que Picasso. Gerhard Richter est extrêmement, comme Picasso l'était d'ailleurs, discret sur sa vie personnelle. Mais par contre, c'est quelqu'un qui a été vraiment traversé par l'histoire. D'abord l'histoire de son pays. Il est né à Dresde, il a vécu les bombardements de la ville, il a vécu la guerre. Son père était dans l'armée nazie, son oncle aussi était un soldat nazi. Une de ses tantes est morte aux mains des nazis. Donc c'est quelqu'un qui, pas plus ni moins d'ailleurs que les Européens qui sont nés comme lui dans les années 30, a été profondément marqué, traumatisé par la guerre. Et ce sujet va réapparaître de temps en temps dans son travail. Alors ici, je vous montre juste quelques images pour vous familiariser avec le travail de ce grand peintre qui, comme vous le voyez, et comme Picasso, a fait coexister des styles extrêmement différents dans son travail. On a vu ses photopeintures du début des années 60. Et puis très vite, dans les années 70, il se lance dans l'abstraction et dans plusieurs types d'abstraction en réalité, avec une abstraction géométrique, comme vous venez de le voir, mais aussi des abstractions de type gestuel. Et vous voyez qu'on est toujours dans les années 70, donc c'est quelqu'un qui va multiplier les styles, faire coexister l'abstraction, plutôt différents types d'abstraction, et la figuration. Donc une espèce de virtuosité technique, de complexité, qui n'a d'égal, à mon avis, au XXe siècle, que celle du travail de Picasso. Donc il développe parallèlement ces deux types de tableaux, donc ces tableaux dits photographiques, qui de loin, vous voyez à l'image, ressemblent à des photographies, mais il s'agit toujours de peintures, quelquefois de très grands tableaux, avec beaucoup de clins d'œil à l'histoire de la peinture, précisément. À gauche, vous avez un Emma descendant l'escalier. Emma, c'est le nom de sa première femme, qui est un clin d'œil au tableau de Marcel Duchamp de 1912, dont le titre était justement « Nu descendant l'escalier ». Et à droite, un autre clin d'œil, un autre grand maître de la peinture, Titien, c'est une Annonciation qu'il peint en 1973, non pas d'après le tableau qui se trouve à l'Académie de Venise, mais d'après une carte postale de ce tableau. Donc cette idée que développe Gerhard Richter, qui est tout à fait importante dans son travail, qui est de défendre la peinture, et de le faire toujours en passant par le biais de la photographie, qui est tout de même le grand défi lancé au XXe siècle, et encore aujourd'hui, à la peinture. Et puis dans les années 80, donc il continue ce dialogue tout à fait étonnant, tout à fait extraordinaire, entre ces tableaux photographiques, qu'on va brièvement décrire comme étant figuratif, et des tableaux abstraits. Et comme vous le voyez, il renouvelle complètement l'abstraction, avec des types d'abstraction très différents. Ici, on est au début des années 80, et il commence à peindre de très grands tableaux, assez monumentaux, avec des couleurs extrêmement acides, des jaunes, des verts, des bleus, très très frappants. Et puis dans les années 90, dans ce bref survol de son travail, il commence à peindre des très grands tableaux abstraits que vous découvrirez dans la partie nord de l'exposition, au sixième étage. Et pour cela, il invente une technique tout à fait étonnante où il va, au lieu de passer la couleur avec des pinceaux, il va écraser la couleur littéralement avec des grands instruments métalliques et donc faire ces grands tableaux abstraits qui sont réalisés partiellement avec une sorte de hasard ou d'aléatoire. Un petit peu comme Pollock le faisait en laissant couler la peinture sur la toile. Ici, lui, écrase la peinture avec ses grands râteaux métalliques. Et puis, en même temps, une espèce de troisième famille technique dans son travail, avec l'abstraction, la figuration, ces grandes sculptures en verre qu'il commence à faire dès le début des années 60 et qu'il continue à faire aujourd'hui. Donc, un artiste extrêmement prolifique, avec une production très complexe, très contrastée. Quelques exemples de ses dernières œuvres, donc qui sont réalisées en peintes sous verre, en fait, donc toujours cette famille de tableaux sur verre ou sous verre, extrêmement colorés. Donc là, on est dans les 10 dernières années, et donc je rappelle qu'il vient de fêter ses 80 ans. Donc quelqu'un qui est encore extrêmement dynamique, qui se renouvelle, très très présent sur la scène de la peinture contemporaine. Alors, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, si j'ose dire, qui n'est pas tellement vif, qui est donc celui de la mort. Un tableau, alors je commence un petit peu par la fin d'une certaine manière, avec ce tableau de droite qui s'appelle Septembre, un tableau qu'il a peint en 2005 et qui commente l'attentat des Tours Jumelles à New York, donc il le commente quelques années après. C'est un des très très rares tableaux dans le travail de Gerhard Richter où il parle de l'actualité, Il y en a un autre exemple que je vais vous commenter tout à l'heure, à la fin de mon exposé. Ces deux occurrences dans son travail ont en fait le même sujet. Il s'agit de représenter une sorte de mort collective, à chaque fois des massacres, et des massacres qui sont, dont la cause est relativement, non pas indéterminée, mais en tout cas relève du terrorisme, un terrorisme d'État dans les deux cas. Donc à droite, vous avez un tout petit tableau, vous voyez, 50 sur 72 cm, qui est assez abstrait, c'est-à-dire qu'on voit à peine, l'avion est représenté par une sorte de coup de pinceau, à peine visible, les deux tours sont recouvertes, quasiment effacées par aussi des traces de pinceau abstrait. Donc un tableau assez discret, mais qui a fait beaucoup de bruit quand il a été peint, puisqu'il était un de ces rares tableaux historiques de Gerhard Richter, et qu'il parlait encore du terrorisme. Je l'ai mis en regard avec un autre tableau qu'il a peint 10 ans avant, dans un tout autre esprit, puisqu'il s'agit d'un portrait de sa troisième femme, Sabine, et de son premier fils, Moritz. Donc un tableau d'une veine tout à fait opposée, beaucoup plus sentimentale, beaucoup plus personnelle, pour vous montrer que c'est un artiste qui a cette capacité extraordinaire de peindre à la fois des tableaux historiques et des tableaux extrêmement personnels, des portraits de ses proches. Alors donc, une toute petite biographie que je viens de faire, mais je ne vais peut-être pas refaire. Donc c'est quelqu'un qui est né dans les années en 1930, qui s'enfuit donc en Allemagne de l'Ouest, qui détruit tout son travail et qui note son premier tableau du catalogue raisonné en 62, et puis qui est très vite reconnu au niveau international, puisqu'en 72, il représente l'Allemagne à la Biennale de Venise. Donc une reconnaissance assez précoce de son travail. Quelques dates aussi importantes, une première exposition au Centre Pompidou à Paris en 1977, l'année d'ouverture du Centre Pompidou précisément. Donc il est montré chez nous, si j'ose dire, en même temps que Marcel Duchamp, ce qu'on a un petit peu oublié. Il commence des tableaux abstraits au milieu des années 80. Il a une première rétrospective itinérante en Europe aussi en 86, puis aux États-Unis à la fin des années 80, et c'est le moment où son marché va commencer à exploser littéralement, parce qu'aujourd'hui c'est le peintre vivant le plus cher. Heureusement pour lui, malheureusement pour nous, lorsqu'il s'agit d'organiser des expositions. Il a eu le Lion d'or à la Biennale de Venise en 97, reparticipe en 2001 à une autre Biennale de Venise, à une grande rétrospective à New York en 2002. Il a aussi, en 2007, réalisé cet extraordinaire vitrail abstrait dans la cathédrale de Cologne, que je vous engage à aller visiter si vous passez dans cette ville. Et une dernière série tout à fait étonnante qu'on montre dans l'exposition du Centre Pompidou qui s'appelle Strip et qu'il a peint en 2011. Et je vous engage là encore à aller faire un petit tour de l'autre côté de la Seine au Centre Pompidou. Alors pour en venir au sujet de la mort dans son travail, donc elle est présente très tôt et de manière indirecte parce que c'est un peintre qui est encore une fois très discret sur sa vie, sur sa biographie, discret sur cette première partie difficile de sa vie sous les bombes à Dresde, discret sur l'impact de la guerre, sur la mort ou l'engagement de sa famille dans l'armée nazie. Il y a ce tableau tout à fait étrange qui s'appelle « Mort » qu'il peint en 63, il fait partie de cette série de photo-peintures des années 60. C'est une photographie qu'il tire d'un magazine où ce qui est en fait représenté, c'est un homme écrasé par un rocher. Et il a gardé un mot de l'article, « Tote », donc ce mot qui veut dire « mort » en Allemagne. Donc c'est un tableau assez, à la fois un peu ironique, mais aussi évidemment tragique. Et c'est ce mélange d'ironie et de tragique qui est souvent présent dans son travail, et qu'on retrouve à peu près à la même époque dans certains tableaux d'Andy Warhol, qui a lui aussi représenté des désastres, des accidents, exactement au même moment, au début des années 60. À l'époque d'ailleurs, Gerhard Richter fait partie de ce qu'on appelle le « pop européen », une notion qu'on a depuis un tout petit peu oubliée. Alors cette présence de la mort et de la guerre, elle apparaît de manière ponctuelle dans son travail. Certains de ses photo-tableaux, photo-peintures, représentent des bombardiers, qui sont des bombardiers américains. Donc on parle plutôt ici de la guerre du Vietnam, mais bien évidemment, les Allemands, les Européens qui voient ces tableaux dans les années 60 pensent aussi à la Seconde Guerre mondiale et pensent aussi à l'Europe bombardée par ces mêmes Américains. C'est des tableaux qui se trouvent tous les deux dans la première salle de l'exposition du Centre Pompidou. Alors je vous parlais tout à l'heure de la manière dont Gerhard Richter a été frappé personnellement par la guerre et par les massacres de la guerre. À gauche, vous avez un tableau qui représente sa tante Marianne, qui tient d'ailleurs dans ses bras Gerhard Richter, l'artiste. Cette tante a été euthanasiée par les nazis parce qu'elle était malade mentale. Et curieusement, quand Gerhard Richter a peint ce tableau en 65, il ne le savait pas. Et c'est un journaliste qui, lors d'un interview, lui a appris presque 20 ans après. Et l'artiste, d'ailleurs un peu surpris par cette information qu'il n'avait pas, a répondu « Mais mes tableaux sont plus intelligents que moi ». Une remarque, à mon avis, très juste pour beaucoup de grands peintres. À droite, un tableau qui représente son oncle, Rudy, qui lui a été soldat nazi et qui est d'ailleurs mort peu après que l'artiste ne le peigne. C'est un tableau des années 60 dont vous avez ici en fait une reproduction, d'où la date de 2000 sur l'image. Et puis la mort revient dans son travail, presque 20 ans après, dans une série tout à fait étonnante, qui coexiste avec des grands tableaux abstraits que je vous ai montrés tout à l'heure, ces tableaux aux couleurs acides, vert, vert et jaune. Au moment où il renouvelle complètement l'abstraction, il réinvente complètement ce style abstrait, il peint une série de vanités, de natures mortes, qui sont elles extrêmement mélancoliques, de facture extrêmement classique, toujours peint à partir de photographies, une série de crânes, une série de bougies, dont vous avez ici deux exemples qui sont dans l'exposition, qui sont peints entre 1982 et 1983. Il y en a une petite vingtaine. C'est des tableaux d'assez grand format, donc là encore l'image est agrandie, projetée sur le mur, repeinte, et puis légèrement floutée, comme vous le voyez, avec des effets tout à fait étonnants de réflexion pour les crânes ou d'ombre pour les bougies. Mais on est là dans un rapport tout à fait clair avec la peinture classique, avec les vanités qui remontent à la peinture de la Renaissance, à la peinture baroque. Et Gerhard Richter se situe dans une tradition très ancienne, dans des motifs extrêmement anciens, dans un dialogue en tout cas avec les grands genres de la peinture. Dans ces vanités, aussi d'autres exemples, des fleurs auxquelles je consacre aussi tout un mur dans l'exposition. Donc un dialogue qu'un peintre établit avec une peinture ancienne, une peinture classique et ces grands genres de la peinture. Et puis, le cœur de mon exposé, et je pense que c'était un peu la commande aussi, c'était de vous parler d'une série tout à fait étonnante qu'il peint en 1988 et qui s'appelle « Le 18 octobre 1977 ». Une série qu'il peint, en fait, 10 ans après un événement que vous connaissez peut-être. Le 18 octobre 1977, c'est la date de la mort dans leur cellule de 3 membres de la bande Abadeur, de la fraction armée rouge en Allemagne. Comme vous le savez, c'était des bandes de terroristes extrêmement violents, extrêmement actifs. Et c'est un événement tout à fait traumatique pour l'Allemagne, que je vous rappelle. C'est une journée, le 18 octobre 1977, qui commence par l'assaut mené contre l'avion Landshut de la Lufthansa, qui a été détourné à Mogadiscio par des terroristes, qui exigeaient la libération immédiate des membres emprisonnés de cette fraction armée rouge. Cette journée s'achève par la mort de 3 de leurs chefs de file, qui étaient dans un quartier de haute sécurité de cette prison de Steinheim à Stuttgart. Mort dans des conditions assez suspectes, puisque une personne s'est pendue, l'autre a été étranglée, la troisième s'est tirée une balle dans la tête, dans une prison de haute sécurité, donc dans un endroit extrêmement surveillé, dans lequel il semblait curieux que des armes puissent passer. Le lendemain, le 19 octobre, Hans Martin Schleyer, le patron des patrons allemands, est brutalement assassiné. Il était détenu en otage par la RAF depuis 43 jours. Donc un événement assez mystérieux encore aujourd'hui, extrêmement violent, que Gerhard Richter décide de reproduire plus de 11 ans après qu'il ait eu lieu, mettant ainsi une distance assez importante entre l'événement et le moment où il peint, ce qui fait qu'au lieu d'être un événement d'actualité, c'est plutôt devant une peinture historique qu'on se trouve, devant une peinture d'histoire. Alors voici la reproduction de ces tableaux que, encore une fois, je vous engage à aller voir. On leur consacre une salle dans l'exposition. 3 tableaux ici de Gudrun Eslin, qui a été retrouvée pendue. Ce qui est tout à fait étonnant dans cette série de 15 tableaux, c'est qu'en fait, Gerhard Richter ne représente pas en réalité une date, mais différentes étapes de l'arrestation, puis de la mort de ces terroristes et enfin de leur enterrement. Il va rassembler plusieurs de ces étapes dans ce cycle de 15 tableaux et bien souvent représenter plus ou moins le même motif ou le même moment dans différents tableaux qui sont des diptyques ou des triptyques. Donc ici, 3 gros plans d'une des terroristes au moment où elle est arrêtée avec ce costume que lui a donné la police, plutôt souriante, plutôt sympathique.
Il la représente même petite fille, je crois. Hein.
Alors ça, c'est une autre, c'est Ulrike Meinhof qui le représente plus jeune. Ici, c'est une vue de l'enterrement, quelques mois après. Un grand tableau très abstrait. Donc, comme vous le voyez, cette série est noire et blanche. Un tableau qui fait 2 mètres sur 3 et qui est encore une fois très, très brouillé. Mais vous voyez qu'il y a une foule de gens qui accompagnent ces terroristes. Autre triptyque tout à fait impressionnant, celui de Ulrike qui est morte étranglée. 3 gros plans qui vous montrent cette technique tout à fait extraordinaire de Gerhard Richter où il commence par peindre l'image de manière très précise et ensuite il l'efface. Et le fait d'autant plus qu'on a envie, en fait, de voir le détail de l'image. Dans ce cas précis, vous voyez qu'on devine la trace de la corde autour du cou. On a envie d'en voir plus. Il y a quelque chose d'un peu voyeuriste dans notre désir de voir le détail, de comprendre, d'en savoir plus. Et au fur et à mesure que notre œil tente de saisir ce détail, l'artiste s'approche, fait un gros plan et floute l'image. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la frustration, d'une mise en scène d'une certaine manière de notre désir de voir mieux, d'en savoir plus, un désir frustré par la peinture qui nous fait nous interroger finalement sur notre volonté de savoir et sur la manière d'où, dans ce cas précis, l'histoire nous refuse en fait l'information. On n'a jamais su, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Est-ce que ça a été vraiment des suicides? Est-ce que c'est pas plutôt un crime organisé ou un niveau assez élevé de l'État? On ne sait toujours pas. Voilà une autre étape de cette mort suspecte de ces terroristes qui est le moment de leur arrestation. Ce sont des images prises par la police que Gerhard Richter a trouvées dans les archives. Il a travaillé presque un an sur le choix des images, sur la recherche de ces images, sur le tri des images avant de les peindre. Vous voyez que là encore, il s'agit d'un diptyque. Un diptyque extrêmement flou, on voit très peu de choses. Et ce qu'on ne voit pas, en fait, c'est que, à ce moment précis, l'un des terroristes, en fait, bloqué devant chez lui par plein de voitures de police, est sommé de se déshabiller devant les policiers, devant un groupe de policiers. Un épisode évidemment extrêmement humiliant et dégradant, qui est quasiment invisible à l'image. Donc, là encore, ce rapport entre l'image qui révèle et l'image qui frustre, entre ce qu'on a envie de voir et ce qu'on n'arrive pas à voir, entre ce qu'on sait et ce qu'on oublie. Donc un travail tout à fait étonnant, réflexif sur la vision et sur la peinture. Alors un autre grand tableau dont le titre est évocateur, Pendu, où là encore on voit donc la terroriste pendue au barreau de sa fenêtre. On la voit sans la voir puisque le tableau est quasiment abstrait. Il y a cette espèce d'ombre noire à gauche qui est probablement une photographie mal prise, retrouvée dans les archives, qu'il reproduit telle quelle. Le personnage aussi complètement flouté, la surexposition à droite, fait que sans connaître le sujet, sans contexte, on est quasiment devant un tableau abstrait, mais un tableau qui, là encore, représente cette mort traumatique, cette mort étrange d'un terroriste qui se pend exactement le même jour, au même moment que son collègue à côté se tire une balle dans la tête et le troisième étranglé. Donc trois morts contemporaines, étranges, dans des cellules d'une prison de haute sécurité, qu'un peintre choisit de peindre 10 ans après. Une autre image encore, une cellule, donc une pièce vide, là ce coup-ci, pas de présence humaine, mais peut-être un commentaire sur le fait que ces quatre terroristes provenaient tous de la même, on va dire, de la même tranche sociale de la société allemande, quatre jeunes bourgeois, comme on disait à l'époque, aujourd'hui c'est un mot moins usité, des intellectuels qui ont fait des études supérieures et qui, à un moment, basculent dans le terrorisme, basculent dans la violence. Et cette pièce où on voit cette présence des livres, cette grande bibliothèque, est à mon avis aussi un commentaire sur la société allemande, sur la société européenne, qui fait que cette tranche de la société bascule comme ça dans une forme de violence étatique. Deux dernières images pour finir. Le tourne-disque dans lequel on a retrouvé ce pistolet, cet étrange pistolet qui parvient dans cette prison de haute sécurité, caché dans cet objet. Alors là, c'est une information que tous les Allemands de l'époque avaient. C'est une image qui a énormément circulé dans la presse et que Gerhard Richter choisit de mettre en exergue dans cette série de 15 tableaux. Et le dernier, qu'on met d'ailleurs souvent en premier dans cette série de 15 tableaux, c'est ce portrait de jeunesse de Ulrike Meinhof, avant qu'elle ne bascule dans le terrorisme. C'est un portrait de cette femme adolescente, plutôt charmante, bien que ici le choix du noir et blanc lui donne un caractère extrêmement mélancolique. Gerhard Richter choisit là aussi de mettre en exergue dans ces 15 tableaux. Donc vous voyez qu'ici l'événement est d'une certaine manière entouré par un avant et un après qui va jeter une lumière tout à fait personnelle sur cet événement historique. Deux autres images de cette série de 15, c'est un tableau qui s'appelle « Abattu par balle », donc le terroriste couché par terre. Donc c'est Gudrun Esslin qui s'est pendue, Ulrike Meinhof qui a été étranglée, et Andreas Bader qui est tué par balle, que vous voyez ici dans la cellule de sa prison. Le quatrième, Holger Mainz, était mort d'une grève de la faim quelques années avant, en 1974. Donc, pour en venir sur le commentaire de ces tableaux, bon, j'ai fait beaucoup de visites de cette salle. Ces 15 tableaux se trouvent maintenant dans la collection du MoMA. Et d'ailleurs, ça a été extrêmement scandaleux à l'époque où ça a été acheté par le MoMA que ces œuvres passent de l'Allemagne aux États-Unis. J'étais assez frappée des commentaires que j'ai pu entendre, de la différence entre les commentaires des visiteurs américains, par exemple, ou des Européens, et la compréhension qu'on peut avoir différente d'un pays ou d'un continent à l'autre. Quelques commentaires d'abord qu'a fait l'artiste sur ses tableaux. On lui a énormément posé de questions. Pourquoi il s'était mis à peindre tout à coup ce tableau historique, cette actualité traumatique, alors que jusqu'ici il peignait plutôt des natures mortes, des paysages, des portraits ou des tableaux abstraits. Il a fait quelques réponses assez laconiques que j'ai rassemblées ici. La première, la réalité funeste, la réalité inhumaine, notre indignation, impuissance, échec, mort, voilà pourquoi je peins ces tableaux. Donc là, il répond sans répondre. Une autre réponse un peu plus précise, toutes ces images sont ternes, grises, floues pour la plupart, diffuses. Leur présence est l'horreur et le refus difficilement supportable de répondre, d'expliquer, d'exprimer une opinion. Je ne sais pas exactement si ces images interrogent, elles suggèrent plutôt une contradiction à cause de l'absence d'espoir, de la détresse qui réside en elles, à cause de leur impartialité. Depuis que je suis capable de penser, j'ai été obligée de reconnaître que toute règle de conduite et toute opinion, dans la mesure où elles ont des mobiles idéologiques, sont fausses, inopportunes, nuisibles ou criminelles. Gerhard Richter est en effet quelqu'un qui a toujours refusé d'être idéologique, d'être politique, et on comprend bien pourquoi, fuyant l'Allemagne de l'Est, détruisant son travail, il décide d'être ensuite extrêmement neutre et de ne jamais prendre part à quelque politique ou pensée politique que ce soit. Mais il prend le risque de reproduire cet événement extrêmement politique pour le coup. Comme vous le voyez, il le fait cependant de manière très distanciée, de manière assez neutre. Il ne prend pas parti pour ou contre ces terroristes. Par contre, il nous force à nous interroger sur ce qui s'est passé, à nous interroger sur le statut de ces images de presse, sur ces images de police, à nous interroger sur cet événement caché, enfin en tout cas ce que les hommes politiques ont caché ou n'ont pas révélé. Et puis aussi, je pense plus profondément, et ça je pense que vous le sentirez si vous allez voir ces toiles, si vous êtes dans l'espace entouré par elles, il y a pour moi quelque chose de l'ordre de la religion, en tout cas de la spiritualité, ce contre quoi d'ailleurs il refuserait de s'exprimer, parce qu'on en a parlé ensemble. Pour moi, très personnellement, je vois ces 15 tableaux comme une sorte de chemin de croix contemporain. On n'est pas très loin du nombre. Il y a 14 stations généralement dans le chemin de croix, ici il y a 15 tableaux. Si on en retire le tableau de Ulrike Meinhof jeune, on arrive aux 14 étapes. Il y a beaucoup de triptyques dans cette série. Et chaque artiste, chaque peintre qui s'attaque à un triptyque ne peut pas ne pas reconnaître qu'il touche à quelque chose de spirituel, en tout cas. Il y a aussi ce sujet d'une mort mystérieuse, d'une mort pour une cause. Et je pense que le Christ sur la croix s'interrogeant sur sa finalité, sur la raison, est-ce qu'il avait raison ou pas de se sacrifier, il y a certainement quelque chose de l'ordre de cette interrogation dans ces tableaux. Et en tout cas, en tant que public, je trouve que c'est une question qu'on se pose face à ces toiles. Et aujourd'hui, s'il fallait peindre une crucifixion, puisque je crois que c'était aussi un des sujets aujourd'hui, je pense que Richter répond à cette difficulté de peindre aujourd'hui une peinture qui parle de la mort, qui parle de la spiritualité sans être tout à fait religieuse. Je pense que 18 octobre 1977, c'est l'équivalent aujourd'hui d'une grande crucifixion, même si l'artiste ne dirait pas ça lui-même, mais en tout cas un tableau qui s'interroge sur ce que c'est que le sacrifice. Le sacrifice pour une cause, et aujourd'hui, la mort des terroristes, la mort des... Je pense qu'on le vit tous les jours aujourd'hui avec ce qui se passe en Syrie ou d'autres pays. C'est une terreur, une violence qui nous interroge tous les jours, et je pense que cette série de tableaux permet d'y réfléchir, en tout cas de le regarder en face. Voilà, merci de votre attention.
Qu'est-ce qui fait qu'assez longtemps après, il représente les tours de New York? Quand on voit le tableau, réellement, on ne voit pas très bien ce que c'est. Mm-hmm. Au début, je trouve que votre reproduction permet de mieux voir, comme s'il était fortement éclairé, il y avait quelque chose. Et c'est un homme de l'interrogation permanente. C'est-à-dire que quand il fait un tableau abstrait, il pense à la figure. On a l'impression qu'il s'interroge tout le temps. C'est très philosophique allemand. C'est très anti-français. Oui. Le français, il est content de ce qu'il a fait. Il
le
fait
une connerie, il est content. Beaucoup aussi.
Mais là, c'est la question. C'est, vous ne trouvez pas? Et pour ces femmes terroristes, pour le tableau de cette fille, quand on le voit arriver dans sa pression, elle est très belle. Il y a la compassion. Mm-hmm. Il y a quelque chose. Quoi qu'elle ait faite.
Absolument, oui. C'est vrai qu'il y a de la compassion.
Il ne peut pas y penser, je trouve.
Oui. Mais d'ailleurs, ces tableaux parlent de la compassion. On a le cœur serré en regardant ces tableaux. Donc c'est vrai qu'il ne prend pas parti, parce qu'il y a à la fois la violence, les morts que ces terroristes ont provoquées, mais aussi leur mort qui est elle-même
terrible.
Pour répondre à votre question sur septembre, alors là aussi, on l'a beaucoup interrogé. Gerd Richter a cette particularité de ne jamais répondre aux questions. Et d'ailleurs, moi, j'étais très inquiète au moment de la conférence de presse à Paris.
Il répond pas quand vous l'interrogez.
Parce que il a tendance à ne plus on lui pose des questions, moins il répond. Et notamment, l'exposition avait ouvert avant d'aller à Paris, à Londres. Il y a eu cette conférence de presse qui a quand même duré une heure où il a dit, je crois, trois mots. Et donc, plus on lui posait des questions, moins il parlait. Et donc, moi, j'avais essayé de bien préparer les choses pour qu'à Paris, il dise quelques mots, et ça s'est plutôt bien passé. Mais sur cette question de ce tableau-là, il a dit très peu de choses. Il y a un livre, un très beau livre qui a été écrit par Robert Storr sur la question, alors qui tourne autour du silence de l'artiste et qui fait des tas de commentaires absolument passionnants. Gerhard Richter, c'est quelqu'un qui a un tempérament extrêmement mélancolique, et quand vous dites qu'il s'interroge, oui, il s'interroge tous les jours sur ce qu'il fait. Il y a des grandes périodes où il ne peint pas. Je pense qu'il a des périodes qui sont de l'ordre de la dépression.
Oui.
Je pense que donc ces événements l'ont profondément marqué. Il n'arrive pas à les peindre au moment où ils arrivent, parce que je pense qu'il est trop marqué par l'événement lui-même, donc il le peint quelques années après. Et l'histoire de ce petit tableau septembre, c'est qu'en fait, juste après l'avoir peint, il a voulu le détruire. Et ça m'a été raconté par la personne qui l'a sauvé, entre guillemets, qui est son plus grand collectionneur aujourd'hui, son plus grand collectionneur privé, qui est lui-même un homme extrêmement discret, qui ne donne pas son nom, que j'ai réussi à rencontrer, avec qui j'ai eu de bons rapports et qui est devenu l'un des plus grands prêteurs de l'exposition, qui est un proche de l'artiste et qui, voyant ce tableau dans l'atelier, on dit quelques mots et Gerhard lui dit « Mais moi, ce tableau, je l'ai peint, mais je vais le détruire. » Et le collectionneur lui dit « Il n'est pas question que tu le détruises, je te l'achète. Et donc, si je l'achète, tu ne peux pas le détruire parce qu'il m'appartient. » Donc, le collectionneur l'achète effectivement au moment où il est en train de le peindre. Donc, il se retrouve deux propriétaires de l'œuvre. Ils bataillent très longtemps pour savoir si cette œuvre devait exister ou ne pas exister. Et dans un éclair de génie, le collectionneur décide de donner le tableau au MoMA. L'artiste finit par se laisser persuader. Donc, ce tableau est aujourd'hui donné au MoMA. Et vous verrez sur le cartel qu'il est propriété de l'artiste et d'une collection privée. Donc ce petit tableau a existé parce qu'il a été sauvé par un collectionneur. Il faut savoir que Gerhard Richter détruit énormément de ses tableaux parce qu'il s'interroge, comme vous dites très justement, en permanence sur la validité de ce qu'il fait. Moi, je l'ai vu critiquer son propre travail. À chaque fois que je choisissais un tableau, il me disait mais vous êtes sûr, vous aimez ce tableau, parce que moi, je ne sais plus si je l'aime. Donc c'est quelqu'un qui a cette merveilleuse interrogation sur son travail, cette mélancolie. Et donc les tableaux qui finissent par exister, qui finissent par montrer, ce sont ceux qu'il a lui-même sauvés d'une certaine manière de la mort. Voilà.
Et les cadres, c'est un paradoxe. La salle des cadres, il y a une scène où il n'y a que des cadres.
Alors ça, les cadres, c'est les gens qui choisissent d'encadrer les tableaux.
Oui, mais pourquoi il les a mis là? Il y a une salle, quand on a parcouru la grande allée, puis on arrive, et puis il y a une salle où il y a des choses transparentes et des cadres.
La sculpture.
J'appelle ça des cadres.
La sculpture en verre.
Vous appelez ça la sculpture en verre, mais il n'y a rien.
Il n'y a rien.
Il y a un cadre sans verre.
Ouais. Non, il y a des verres.
Il y a des verres.
Il y a des verres transparents.
Parce que là aussi, c'est une question sur qu'est-ce que c'est qu'un tableau.
Absolument.
Qu'est-ce que c'est, ça?
Il faut aller voir l'exposition.
Ceux qui ne vont pas, vous êtes dégourdis. Tirez-vous tout de suite. Alors, c'est
moi,
pas la peine
pas dire
d'être venu. Vous avez perdu votre après-midi. Non, parce que c'est. Et je trouve qu'il relève d'un esprit. C'est pas du tout franchouillard, ça. Les Français, ils veulent comprendre, ils ne comprennent pas. Puis au fond, les Français, il y a une certaine autosatisfaction qui est abominable.
Non, il y a quelques grands peintres français.
Je ne parle pas de grandeur, mais le tempérament français, quand on a fait quelque chose, on est content de l'avoir fait, c'est fini, on en parle. Là, il y a cette espèce d'obsession. Non, mais s'il est très grand, Matisse s'interrogeait jusqu'au dernier jour, et n'empêche qu'il a désigné, ça c'est le meilleur tableau que j'ai fait au monde. Non, mais c'est quand même, lui, l'interrogation, ne serait-ce que la variété de choses qu'il fait. On se demande comment il doit les faire, d'ailleurs, dans la même journée. Il passe d'une abstraction à l'autre. C'est invraisemblable. Mmh. Hein, cette période de la bougie et des squelettes et des vanités, d'où ça vient, ça? Comment vous êtes rentré dans cette peinture, vous? Qu'est-ce qui vous a séduit?
J'étais rentrée là-dedans bien avant l'exposition.
Bien sûr, puisque vous l'avez faite. Depuis combien de temps vous le connaissez? Vous connaissez son
travail? Moi, ça fait 3 ans que les expositions, c'est 3 ans avant qu'on commence. J'ai passé 2 ans à aller dans son atelier à Cologne.
Vous parlez allemand ?
Tous les 2 mois, j'ai un petit peu appris l'allemand.
Et lui parle bien anglais ?
Mais on a parlé anglais, en fait, voilà. On a parlé anglais, et puis comme souvent avec les artistes, il y a beaucoup de choses qui passent par le regard, les gestes, on s'observe, on s'aime ou on ne s'aime pas, on s'apprécie, et on se lie sans parler.
Là, vous êtes liés, avec une restriction germanique quand même, c'est-à-dire qu'il reste en arrière de la main.
Alors on avait un point commun tous les deux, c'est que comme moi, il aime beaucoup les sucreries. Et donc, j'arrivais dans son atelier à Cologne, il y avait les petits chocolats, les petits gâteaux, le café et le thé, donc là-dessus on s'entendait très bien.
Bon.
Voilà. Donc on a travaillé là-dessus 3 ans, sur l'exposition, dans son atelier, où il avait construit une maquette de l'espace, du Centre Pompidou, laquelle on déplaçait les œuvres d'une fois sur l'autre, avec des allers-retours en arrière, il me faisait des propositions, il enlevait les tableaux, il les remettait, et moi je revenais après, j'en remettais, j'en enlevais, voilà. Et donc c'était notre manière de dialoguer, quelquefois sans parole.
Sans parole.
Quelquefois sans parole, mais toujours en mangeant nos petits gâteaux et nos petits chocolats.
Voilà. Écoutez, merci beaucoup parce que vous apportez un témoignage.
Alors bien sûr, elle n'est pas là à la radio aujourd'hui, Camille Morino, mais je voudrais de loin la remercier d'être venue à ce colloque parce que c'est une des Françaises qui connaissait le mieux l'œuvre de Gerhard Richter. C'est une des celles qui a été capable de lui faire accepter sa présentation. Et donc l'exposition qui est terminée maintenant, mais il reste le catalogue, était tout à fait exceptionnelle. Relisez ou lisez le catalogue.